Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus s'adresse aux pharisiens « Je suis le bon pasteur ». La scène se déroule 4 à 5 mois avant la Passion. La tension croît de plus en plus entre Jésus et les pharisiens. Jésus vient de guérir un aveugle-né et celui-ci se fait son apologiste auprès des autorités qui l'interrogent. Seul un envoyé de Dieu peut rendre la vue à un aveugle-né. Les pharisiens conviennent de l'argument donné par le miraculé. Ils ont vu le miracle, mais ils ne veulent pas croire. Eux qui se disent les bergers d'Israël s'aveuglent eux-mêmes. Comment pourraient-ils guider les âmes ? Jésus profite de la situation pour nous brosser, par la parabole du bon pasteur, un portrait touchant de ce qu'il est et de sa mission ici-bas. Voyons d'abord ses qualités. Avant de les aborder, demandons-nous pourquoi Jésus a-t-il eu recours à des scènes si simples de la vie champêtre de l'époque ? Ne sont-elles pas un obstacle à l'enseignement de l'homme moderne, entouré d'ordinateurs, d'électronique? Dans son enseignement, Jésus se sert d'épisodes de la vie naturelle qui demeurent à travers les siècles et qui ont des liens étroits avec des vérités supérieures. Et donc ces vérités, ces rapports étroits qui existent, existent toujours à travers les siècles. Les relations du berger avec son troupeau sont toujours les mêmes actuellement. Un jeune berger de la région de Sisteron, passionné par son métier, nous a raconté il y a quelques années comment il connaissait toutes ses brebis, très nombreuses, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs caprices, leurs infirmités, comment il les soignait, les conduisait vers de bons pâturages, comment il leur trouvait de l'ombrage pour les protéger de l'ardeur du soleil du midi. Il nous raconta qu'il les redescendait avant la nuit pour éviter l'attaque des loups. Les loups, en effet, ont été réintroduits dans les Alpes et les bergers ne peuvent plus protéger les brebis dans les alpages en tirant sur les loups ravisseurs, car ces derniers, les loups, sont protégés par la loi, et tout berger zélé est sévèrement puni. Les brebis, elles, comme autrefois, reconnaissent le berger à sa voix. Rien n'a changé sous le soleil depuis 2000 ans, pourrait-on dire avec l'Ecclésiastique. Je suis le bon pasteur. Les exégètes nous font remarquer l'importance de l'article « le ». Jésus est l'unique pasteur, le seul bon. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul envoyé pour conduire les hommes vers les pâturages éternels. Sa venue a été annoncée par les prophètes sous cette image de pasteur, épris de miséricorde pour ses brebis, qu'il voit souffrantes et errantes sur la terre. Écoutons le prophète Ézéchiel. Mes brebis étaient dispersées parce qu'elles n'avaient pas de pasteur. Elles avaient été livrées en proie à toutes les bêtes fauves. Mes troupeaux erraient sur toute la surface de la terre et il n'y avait personne pour les rassembler. Car les pasteurs que je leur avais donnés se paissaient eux-mêmes au lieu de paître le troupeau. C'est pourquoi je les retirerai de leurs mains. Je viendrai moi-même chercher mes brebis, et je les visiterai moi-même. Ensuite, il décrit sa bonté envers les brebis. Je les ferai paître dans les pâturages les plus fertiles. Je les ferai reposer moi-même. J'irai chercher celles qui étaient perdues. Je relèverai celles qui étaient tombées. Je banderai les plaies de celles qui étaient blessées. Je soutiendrai celles qui étaient faibles, je les ferai paître dans la sagesse. Jésus est venu, il a accompli tout cela dans sa vie publique. Ses brebis, il les a nourries de la doctrine de vérité. Il a guéri des malades sans nombre. Il a ressuscité des morts. Il a délivré d'innombrables âmes de l'esclavage du démon. Pensons à Sainte Marie-Madeleine. Il a multiplié les pains pour les foules affamées. Il a redonné l'espérance aux âmes découragées, converti les pécheurs, la femme adultère, le bon larron. Mais tout cela n'était encore que le prélude à un caractère spécial de sa bonté. Le bon pasteur, dit l'Évangile, donne sa vie pour ses brebis. C'est par l'incarnation qu'il a pu accomplir cela. Il a pris la chair d'une de ses brebis incomparables, la Vierge Marie, pour sacrifier cette chair sur le bois de la croix, en rémission de nos péchés. Cette chair, il la donne en nourriture à ses brebis dans le sacrement de l'Eucharistie, gage de la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. L'Évangile continue, « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Non seulement le bon pasteur connaît l'ensemble de son troupeau, c'est-à-dire tous ceux qui font et feront partie de l'Église, et qu'il gouverne avec sagesse, par des lois générales, mais il connaît chaque brebis en particulier. Il l'appelle par son nom, ce nom qui est écrit dans le livre de vie. Jésus, le bon pasteur, connaît chaque brebis totalement. Il l'a créée en la faisant sortir du néant, il l'a rachetée en souffrant sa passion, en mourant sur le bois de la croix, en donnant sa vie pour elle, et qu'elle soit dans l'abondance. Il lui a préparé une place dans le ciel. À chacun d'entre nous, Jésus peut dire en vérité, « Qu'aurais-je pu faire de plus pour toi que je n'ai fait ?» Cette connaissance du bon pasteur pour ses brebis n'est pas une connaissance abstraite. Elle est fondée sur les rapports les plus intimes et elle aboutit à l'amour. Pour mieux nous faire comprendre, Jésus compare ses relations avec nous avec celles qu'il a avec son Père. Cette communauté de vie intime, Jésus en a parlé à la dernière scène. « Comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous, qu'eux aussi soient un en nous. » Dire que Jésus, le bon pasteur, m'aime, c'est dire que cette vie divine qu'il a acquise au prix de son sang, il veut la faire croître en moi jusqu'à son plein développement, la sainteté, qui aboutit à la gloire du ciel. En bon pasteur, il va donc tout disposer ici-bas par sa divine providence, pour me donner une nourriture qui me soit adaptée. C'est parce qu'il nous aime que Jésus nous appelle par notre nom. Il nous appelle pendant la prière ou l'oraison, en nous ouvrant de nouveaux horizons de la vie spirituelle. Il nous appelle en nous montrant plus clairement nos défauts, nos misères. Il nous appelle en nous purifiant par la sécheresse et l'aridité, ou encore en répandant en nous une ferveur nouvelle, le désir d'une plus grande générosité, une soif de sacrifice pour sauver les âmes. Si nous répondons à ces appels intérieurs du bon pasteur, quelle joie ce sera pour nous, car nous connaîtrons ainsi ses richesses, sa bonté, son caractère et son cœur. Nous sentirons de mieux en mieux la parfaite harmonie de sa doctrine, de ses sacrements, de ses institutions avec les aspirations de notre cœur. Jésus termine la parabole par une prophétie qui marque sa volonté rédemptrice et donne le sens de l'histoire. « J'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de ce troupeau, Il me faut les amener, elles entendront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul pasteur. » Cela nous conduit à parler du loup et des mercenaires. À l'époque de Jésus, le troupeau rentrait le soir au bercail, lieu entouré d'un mur en pierre sèche, fermé par une porte. Un gardien veillait sur le troupeau pendant la nuit, protégé ainsi des loups, et il avait pour consigne de n'ouvrir la porte qu'au seul berger. Ce bercail est l'image de l'Église. Le bon pasteur veut que toutes les brebis qui lui appartiennent entrent un jour dans ce bercail et que le gardien, son vicaire, le pape, veille pour protéger les brebis des voleurs et des loups. Le bercail est dans le monde, mais il est protégé du monde par le mur en pierre sèche. Il doit être une protection, le bercail, contre tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde. Or, depuis Vatican II, les papes ont ouvert le bercail. Ils ont démoli le mur. Alors que la nuit s'épaissit sur le monde, plus de murs, plus de barrières entre les brebis et les loups. Tel est le mot d'ordre actuel du pape. Les lois protègent les mercenaires et les loups. Les conséquences sont que les brebis sont dispersées, divisées, exploitées, persécutées. Pensons aux 60 000 morts par an pour la foi. Nous assistons actuellement à une parodie de la parabole du bon pasteur. Le pape lui-même s'accorde avec les mercenaires, dirigeant les différents peuples, pour unir en un seul troupeau tous les hommes de la terre, en faisant de la terre entière un seul bercail, où entrent pêle-mêle brebis, boucs, mercenaires et loups. Le gardien de ce nouveau bercail sera le gouvernement mondial, et son chef ultime n'est pas Jésus, l'unique bon pasteur, mais plutôt le loup, c'est-à-dire Satan. Il imitera le bon pasteur en voulant connaître toutes les brebis par leur nom, grâce à l'informatique. Il leur donnera une nourriture alléchante, tous les plaisirs de la terre. Il leur procurera une fausse paix. Mais cela est voué à l'échec, car Jésus, le seul pasteur, a reçu de son Père les nations pour son héritage, et voici ce qu'il dit par la bouche du psalmiste aux gouvernants de la terre. Comprenez, instruisez-vous, servez le Seigneur avec crainte. Attachez-vous à la doctrine, de peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous ne périssiez hors de la voie droite. Lorsque bientôt s'enflammera sa colère, heureux tous ceux qui ont confiance en lui. Quant à nous, nous devons vouloir de tout notre cœur, de toutes nos forces, que tout soit soumis à l'unique bon pasteur, que tout lui soit obéissant, que tout entre dans l'intimité de son saint amour. En un mot, nous devons vouloir le règne du Christ roi de toutes nos forces. Comment ? En l'accomplissant d'abord en nous, de sorte que toutes les puissances de notre âme soient soumises au bon pasteur de nos âmes, Jésus. Que le cœur immaculé de Marie nous accorde cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.